c'est la semaine des Nobel, troisième Nobel depuis lundi, trois récompenses, neuf lauréats, pas une seule femme, une année de plus, et on va le doter tout de même, ça commence à se voir. Le prix Nobel de chimie a été donc attribué ce matin à un trio de chercheurs, l'américain John B. John Goodenough, donc l'anglais Stanley Whittingham et le japonais Akira Yoshino, pour leur invention de la batterie lithium-ion, Natacha.
La batterie lithium-ion, c'est l'une des avancées en électrochimie les plus importantes du XXe siècle. C'est ce qui a ouvert la voie au sans-fil. Aujourd'hui, on l'utilise partout, les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures électriques. Ces trois chercheurs ont chacun joué un rôle dans cette découverte. Le premier, Stanley Whittingham, créé dans les années 70, en pleine crise du pétrole, la première batterie au lithium. À l'époque, c'est la première fois qu'on a un système électrochimique dans un système de batterie qui passe d'un électrolyte aqueux à un électrolyte organique. En utilisant le lithium, cela a multiplié le potentiel des batteries par 3, avec plus de densité d'énergie et plus d'autonomie. Mais elles étaient encore trop explosives pour être viables, ces batteries. John Goodenough améliore ensuite ses caractéristiques. Jean-Marie Tarascon est professeur au Collège de France et responsable de la chaire chimie solide et énergie.
En France, Jean Goodenough, c'est presque le père de la chimie du solide. Pourquoi ? Sa contribution au niveau de l'électrochimie et des batteries à ion lithium, ça a été directement de choisir les bons matériaux d'électrode, c'est-à-dire ce fameux l'oxyde LiCO2 qui est aujourd'hui dans la plupart de nos accumulateurs à ion lithium. C'est grâce à ces recherches que ces batteries sont devenues plus puissantes. Et la contribution du japonais a été d'apporter le matériau d'électrode négatif, qui est le carbone, qui va s'opposer à l'électrode positive, parce que la particularité du lithium-ion, c'est que dans ce cas, vous n'avez plus de lithium métal, vous n'avez que des ions lithium qui vont faire la navette entre votre électrode positive et votre électrode négative. D'où il n'y avait plus de problème de dendrite et la raison pour laquelle la technologie a pris l'ampleur qu'elle a prise.
Oui, voilà, et on va vous mettre évidemment le lien sur le fil Twitter, comme chaque jour, vers la page Facebook et le lien surtout vers le site franceculture.fr, où vous allez retrouver évidemment tous les liens pour comprendre les études, les émissions, notamment ceux de la méthode scientifique, qui sont liés à ces prix Nobel et à ces trois prix Nobel de sciences, sur lesquels nous reviendrons évidemment dans le journal des sciences de vendredi. Et on passe au bref. Selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Proceedings of the Royal Society London, la pollinisation des cultures de colza par les abeilles est plus rentable que l'utilisation des pesticides.
Et c'est la conclusion des chercheurs de l'INRA et du CNRS. Pendant 4 ans, ils ont comparé les rendements de différentes parcelles d'agriculteurs. Ceux qui utilisent des produits phytopharmaceutiques, comme insecticides ou herbicides, et ceux qui ne le font pas, mais qui ont de nombreuses abeilles. Dans les deux cas, les récoltes sont élevées, les rendements sont similaires, mais les parcelles avec un grand nombre d'abeilles font plus de bénéfices économiques. Ce qui fait la différence, ce sont les coûts des pesticides, ils n'augmentent pas assez les récoltes pour contrebalancer les frais. Cette nouvelle étude montre que l'agroécologie peut aussi être un modèle économique rentable.
Dans la revue Mammalian Biology, pour la première fois, une équipe française vient de découvrir que les cochons peuvent utiliser des outils.
Après le corbeau, le chimpanzé, le castor, le crabe boxeur et le dauphin, la liste s'agrandit depuis les années 60. Dans la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, les chercheurs ont observé les sangliers de Visaya en train de construire leur nid. Pour cela, ils utilisent une écorce de bois pour creuser le sol, un savoir-faire qui est transmis aux porcelets. On savait cette espèce intelligente, mais on ignorait cette capacité cognitive. Cette étude nous rapproche encore un peu plus du cochon.
Et selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal, une vie microbienne pourrait être possible dans l'atmosphère des naines brunes.
Les chercheurs de l'université de Harvard ont calculé cette probabilité parce que les naines brunes réunissent plusieurs conditions favorables à la vie. Elles produisent de la chaleur et se refroidissent progressivement avec certaines zones qui vont de moins 23 à 76 degrés Celsius. Elles ont des pressions atmosphériques proches de l'atmosphère terrestre et elles présentent des ingrédients chimiques clés de la vie. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Néanmoins, les possibilités de survie d'un organisme dans un environnement gazeux sont presque nulles, mais l'étude suggère que la vie microbienne pourrait dériver dans l'atmosphère des planètes qui gravitent autour des naines brunes. Par conséquent, dans la recherche d'une vie extraterrestre, ces astres pourraient être de meilleures cibles.